Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Intéressons-nous aujourd'hui à la constellation de la Vierge. Une très grande constellation, la deuxième plus grande du ciel après l'Hydre. Elle fait partie des constellations du zodiaque et semble même en être une des plus anciennes. Curieusement, la figure mythologique se rapportant à cette constellation n'est pas très claire, et de nombreuses déesses y sont associées. Isis, Déméter, Perséphone, Cybèle, Artémis, Athéna. L'une des versions se raccrochant à la mythologie grecque l'identifie à la déesse de la justice, Astrée, la fille de Thémis. Elle et sa mère sont la personnification de la justice. Elle était la dernière immortelle à vivre sur Terre pendant l'âge d'or. Elle aurait quitté la Terre par dégoût de la grossièreté des hommes quand est arrivé l'âge de fer. Zeus l'aurait alors placée dans le ciel avec, tout proche d'elle, la balance, son attribut. La Vierge est depuis lors quasiment toujours dessinée portant la balance, ainsi qu'un épi de blé. Vous le savez sûrement, la Vierge, c'est l'une des constellations du zodiaque. Pour mémoire, le zodiaque, c'est l'ensemble des constellations qui sont sur la trajectoire du Soleil, ce qu'on appelle l'écliptique. En effet, chaque année, la Terre tourne autour du Soleil, et donc, vu de la Terre, le Soleil semble passer devant certaines étoiles, devant certaines constellations. Et comme la Terre tourne autour du Soleil toujours dans le même plan, d'année en année, le Soleil passe et repasse régulièrement devant les mêmes constellations, c'est ce qu'on appelle le zodiaque. Et le moment de l'année où le Soleil passe devant une constellation définit le signe astrologique. Sauf que si vous regardez, comme je l'ai fait pour préparer cette émission, la position du Soleil et de la constellation de la Vierge, vous constaterez que les dates ne correspondent pas avec le signe astrologique de la Vierge. En effet, en astrologie, le signe de la Vierge est indiqué de fin août à fin septembre. Or, quand on regarde la carte du ciel, moi personnellement, j'ai utilisé pour préparer cette émission le site Stellvision. Fin août, la Vierge est encore visible au coucher du Soleil. Le Soleil ne rentre dans cette constellation qu'une fois le mois de septembre bien entamé. Et il en est ainsi pour toutes les constellations. Le Soleil semble avoir un mois de retard sur l'astrologie. Ce décalage s'explique par un phénomène que l'on appelle la précession des équinoxes. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous rappeler rapidement le principe. La Terre tourne sur elle-même, un petit peu comme une toupie. Son axe de rotation est incliné par rapport au plan dans lequel elle tourne autour du Soleil. Imaginez une toupie qui tourne. Si elle n'est pas parfaitement droite, parfaitement équilibrée, la pesanteur va provoquer une perturbation dans l'axe de rotation. Son axe va décrire alors un cône. Dans le cas de la Terre, c'est aussi une force de gravitation qui va provoquer des oscillations de l'axe de rotation. Ce changement de direction est provoqué par le couple qu'exercent la Lune et le Soleil et leur force de marée sur le renflement équatorial de la Terre. Ces forces tendent à amener l'excès de masse présent à l'équateur vers le plan de l'écliptique. La Terre étant en rotation, ces forces ne peuvent pas changer l'angle entre l'équateur et l'écliptique, mais ils provoquent alors le déplacement de l'axe de rotation de la Terre. Cet axe se décale très lentement. Il décrit un cercle entier en 26 000 ans. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que l'étoile polaire actuelle, Polaris, n'a pas toujours indiqué le nord. Ça a été d'autres étoiles, comme par exemple Tubane dans la constellation du dragon qui indiquait le nord. La précession des équinoxes est quasiment imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, car le décalage est de moins d'une minute d'angle par an. Ça signifie 1 degré tous les 72 ans. Mais à l'échelle de l'histoire astronomique, disons il y a à peu près 2000 ans, ce qui explique que début septembre, le Soleil ne soit plus devant la constellation de la Vierge. Le zodiaque astrologique est décalé d'environ un mois par rapport à l'observation actuelle du ciel. Ce qui fait de lui une photographie qui correspond à peu près il y a 2000 ans, lorsque les bases de l'astrologie ont été fixées en fonction de l'observation astronomique d'alors. Revenons à notre Vierge. La Vierge se repère progressivement tout autour de son étoile majeure Spica. Dans l'hémisphère nord, Spica se repère assez facilement à partir de la Grande Ourse. Vous poursuivez le manche de la casserole en un grand arc de cercle jusqu'à Arcturus, dans le Bouvier, et vous prolongez vers Spica. Repérez ce grand triangle formé par Arcturus du Bouvier, Spica et Denebola du Lion. On appelle ce triangle le grand triangle d'hiver. Au centre de ce triangle se trouve Vindémiatrix, la main de la Vierge. Plus au sud-est se trouvent les premières étoiles de la balance. Les alignements dessinant la Vierge sont peu suggestifs. L'image d'une Vierge est difficile à visualiser. On peut trouver une ligne pas très droite à l'ouest de Spica, qui est un peu la base de la constellation. Cette constellation est observable en début de nuit au printemps et autour de l'automne, plutôt en fin de nuit. C'est sans doute pour ça que cette constellation a été associée à des déesses de l'agriculture, des semailles et des vendanges. Car au moment de son lever héliaque, c'est-à-dire le moment de l'année où on recommençait à la voir apparaître juste avant le lever du soleil à l'est, et ça correspondait à peu près à l'automne, eh bien il était temps soit de faire les vendanges, soit de se mettre aux semailles. Mais si c'est une constellation observée depuis très longtemps, nos ancêtres ne pouvaient pas voir en détail les dizaines de galaxies visibles dans la constellation de la Vierge. En effet, on ne peut pas à l'œil nu distinguer une étoile d'une galaxie. Mais avec un petit télescope d'initiation, on peut commencer à pouvoir observer de nombreuses galaxies. Citons par exemple M104, la galaxie du sombrero. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire déjà cette nomenclature M104 ? C'est parce que la galaxie du sombrero a été le 104e élément répertorié dans le catalogue des objets diffus de Messier. Certaines sources indiquent que Charles Messier avait découvert M104. En fait, elle ne figurait pas dans la première version de son catalogue. Il l'a ajoutée manuellement dans sa copie personnelle le 11 mai 1784. Mais ce n'est pas lui qui l'a découvert, en fait c'est Pierre Méchain, un de ses collègues, qui aurait découvert M104, semble-t-il, en 1781. Il en a informé Jean Bernoulli dans une lettre qui date du 6 mai 1783. Et c'est par la suite Camille Flammarion, qui était astronome avant d'être éditeur, qui remarqua la similitude de la position indiquée par Méchain et l'objet HI43, qui était la galaxie du sombrero observée par John Herschel le 9 mars 1828. Il l'ajouta donc officiellement au catalogue de Messier en 1921. M104, c'est une galaxie spirale qui est vue par la tranche. Elle est à une distance d'environ 47 millions d'années-lumière de la Voie lactée. L'observation de M104 est assez difficile, d'autant qu'elle ne s'élève jamais beaucoup au-dessus de l'horizon, à nos latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Pour la repérer, partez de l'étoile Algorabe du Corbeau. Au nord de cette étoile, vous trouverez un Y à l'envers. M104 est à 1 degré nord-est de l'étoile qui constitue la base du Y. M104 est visible dans une lunette astronomique de débutant, mais elle n'a pas grand intérêt. Sur une petite lunette, on verra surtout une tache floue. En revanche, avec un télescope de 200 mm, vous pourrez déceler la barre sombre de poussière qui contraste devant le noyau brillant. En plus de la galaxie du sombrero, vous pourrez trouver dans la constellation de la Vierge Messier 87, qui est une galaxie elliptique supergéante. Elle a été découverte en 1779 par Johann Keuler. Elle est située à 50 millions d'années-lumière de la Terre. C'est la plus grande et la plus lumineuse des galaxies de l'amas de la Vierge. Contrairement aux galaxies spirales en forme de disque, M87 n'a pas de bande de poussière et a une forme elliptique. En son cœur, elle possède un trou noir supermassif qui constitue l'élément principal de son noyau galactique très actif. Elle émet une forte source de rayonnement dans toutes les longueurs d'onde, et particulièrement dans le micro-ondes. Elle émet aussi un jet de plasma énergétique qui émerge de son cœur et qui s'étend sur au moins 5000 années-lumière. En 1918, c'est l'astronome américain Heber Curtis de l'observatoire de Lick qui observa qu'il n'y avait pas de structure spirale dans M87 et remarqua un curieux rayon droit apparemment connecté au noyau par une fine ligne de matière. Ce rayon apparaissait plus lumineux à une de ses extrémités. En 1947, une importante source radio fut localisée dans M87. Cette source fut confirmée comme étant M87 elle-même en 1953. C'est le jet sortant du cœur de cette nébuleuse extra-galactique qui en était la cause. L'astronome Walter Badeux découvrit que la lumière était un jet polarisé, ce qui suggérait que l'énergie était générée par l'accélération des électrons se déplaçant à une vitesse extrêmement proche de celle de la lumière dans un champ magnétique. Récemment, toutefois, il a été observé par des astronomes amateurs en utilisant des télescopes de grand diamètre sous d'excellentes conditions atmosphériques. On peut aussi, dans la Vierge, noter M61, une galaxie spirale qu'on voit de face, qui est vraiment très belle, en tout cas sur les photos qu'on peut trouver sur Internet. Et puis, dans la constellation de la Vierge, nous allons aussi trouver un amas. Un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de la Vierge, qui est distant d'à peu près 80 millions d'années-lumière et qui comporte plus de 3000 objets. Il a été découvert par Charles Messier en 1781, sans qu'il ne comprenne bien sûr qu'il était en train de regarder un amas de galaxies. Cet amas de galaxies est un regroupement de plus de 3000 galaxies, qui sont liés ensemble par la gravité. Les amas peuvent contenir des centaines à des milliers de galaxies, ainsi que de grandes quantités de gaz chaud et également de matière noire. Les amas de galaxies sont les structures les plus massives de l'univers liées par la gravité. Ils sont composés de différentes galaxies. Elles peuvent être elliptiques, spirales, irrégulières. Les galaxies elliptiques dominent souvent le centre des amas. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi des gaz chauds. Ces gaz émettent des rayons X et constituent une grande partie de la matière des amas. Mais la majorité de la masse de ces amas est en fait sous forme de matière noire. Une substance un peu mystérieuse détectée par ses effets gravitationnels. Les astronomes la soupçonnent d'être la cause de l'organisation de notre univers en amas et en super-amas de galaxies. Car les amas de galaxies se forment par l'accrétion et la fusion des galaxies individuelles ou des petits groupes de galaxies. C'est-à-dire que deux galaxies vont se rapprocher, voire fusionner, pour se rassembler finalement en amas. La gravité générée par la matière noire attire ces galaxies et le gaz aussi environnant en formant la structure de l'amas qui grandit au fur et à mesure du temps. Et ces amas sont ensuite regroupés en ce qu'on appelle des super-amas de galaxies, des ensembles encore plus vastes, composés de nombreux amas de galaxies. Les super-amas sont souvent disposés en filaments de galaxies qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Entre ces filaments se trouvent des régions de l'espace relativement vides qu'on appelle les vides cosmiques. À plus grande échelle, l'univers ressemble donc à une toile composée de filaments de galaxies et de zones plus vides. Les filaments sont des structures allongées, des autoroutes cosmiques où les galaxies et les amas sont connectés par la gravité. La gravité joue un rôle crucial dans la formation de ces structures. Au fil du temps, les petites perturbations dans la distribution initiale de la matière après le Big Bang se sont accentuées sous l'effet de cette gravité pour former ces vastes structures. Mais c'est la rapidité de la formation de ces structures qui a amené les astronomes à imaginer l'existence d'une matière noire, une matière qu'on ne pourrait pas observer, mais qui augmenterait la gravité pour accélérer la formation de ces structures. Je vous renvoie à un podcast que j'ai fait l'année dernière où un astronome nous expliquait très clairement le fonctionnement de cette matière noire.